8h35, continuez de nous envoyer vos souvenirs, commentaires de la journée peut-être la plus froide que vous avez vécue. C'est notre chronique américaine avec Valérie Beaudoin. Bonjour Valérie.
Bonjour Paul.
Est-ce que vous voulez avoir votre thème parce que François était... le thème était gelé.
Bon ben écoute, on peut l'avoir pour se mettre dedans comme on dit.
Oui, le piton, le piton était gelé. Il est encore gelé.
Bon ben...
L'Amérique.
OK.
Avec Valérie Beaudoin.
Bon, je tiens à souligner que c'était le piton et non pas François qui était gelé.
Non, c'est ça.
Bon, ben Valérie,
la précision.
Votre premier sujet, François Legault devrait donner un coup de fil à Joe Biden et dire, on n'a pas eu une grosse semaine, hein, parce que dans le Journal de Montréal, on nous dit que ça a été une des pires semaines du nouveau gouvernement, en fait, du gouvernement caquiste. Je dis le nouveau gouvernement, il est là depuis 2018. Mais ça n'a pas été tellement mieux à la Maison-Blanche.
Non, et les semaines, les bonnes semaines de Joe Biden sont assez rares hein, dans les derniers temps. Mais là, je te dirais que le début 2022 est pas facile. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu deux revers, je vais dire ça comme ça. Le premier, il touche une décision de la Cour suprême. Donc, on s'en était parlé de cette fameuse obligation vaccinale, entre autres dans les entreprises de plus de 100 employés. Hein. C'était particulier. On voulait voir si, justement, la Maison-Blanche avait juridiction d'imposer cette obligation d'avoir le vaccin pour pouvoir travailler dans des grandes entreprises. Eh bien, les juges est vraiment dans les lignes idéologiques. Alors, 6-3, les trois étant les juges les plus, je vous dirais, à gauche, ont décidé que non, c'était pas légal pour le gouvernement américain de décider d'imposer ça à des entités privées. Donc, des organisations comme des compagnies d'aviation, à des grandes compagnies comme Walmart ou autres. On a dit non, ça ne se fait pas. Mais il y en a déjà, Paul, tu le sais très bien, qui le faisaient déjà. Les compagnies aériennes, entre autres, qui avaient décidé déjà depuis longtemps, ben vous êtes vacciné ou sinon vous n'avez pas d'emploi. Donc ça, on n'est pas dans la même chose. Ça, c'est la décision de l'entreprise privée, mais Joe Biden ne peut pas l'imposer. Par contre, il y a quand même Brett Kavanaugh et le juge en chef Roberts qui se sont rangés avec leurs collègues, je vais dire, plus d'allégeance. Ils n'ont pas des allégeances, là, mais plus du côté qu'on les considère démocrates, donc plus à gauche, idéologiquement, pour dire que oui, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, donc où on a des fonds fédéraux, on avait le droit d'obliger le vaccin. Donc ça, c'est la demi-victoire, je dirais, pour Joe Biden. Et que dire aussi de sa visite à Atlanta et de son grand plaidoyer pour qu'on change le droit de vote, qu'on fasse des réformes du droit de vote. Et ses amis sénateurs démocrates Joe Manchin et Kristen Sinema, qui sont des démocrates centristes, qui ont dit « ben non, nous, on veut pas changer les règles du Sénat pour pouvoir faire passer ça ». Je dirais que c'est pas très bon non plus pour l'opinion que ses électeurs ont de lui actuellement.
Bon, cette semaine, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a refusé la libération conditionnelle à l'un des prisonniers les plus célèbres et les plus vieux maintenant d'une prison californienne, Sirhan Bishara Sirhan, celui qui a été l'assassin de Robert Kennedy, le sénateur Robert Kennedy, qui allait probablement obtenir l'investiture démocrate à l'élection de 68. Imaginez-vous, ça remonte à juin 68. Il n'obtiendra pas sa libération conditionnelle.
Oui, en fait, Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, a ignoré la recommandation là, de la commission des libérations conditionnelles. On s'en était parlé, qui avait dit, qui avait recommandé qu'en raison d'un comportement exemplaire, du fait qu'il était repenti et tout ça, qu'on devait le libérer de façon libération conditionnelle, bien sûr. Et Gavin Newsom a expliqué sa décision dans un éditorial qu'il a publié dans le LA Times pour dire que finalement, il trouvait pas que l'accusé avait fait une véritable introspection, qu'il avait pointé du doigt plusieurs personnes, qu'à un certain point, il avait dit qu'il était innocent. Un autre point, il avait dit qu'il était coupable et c'était pour des raisons politiques. Un autre, bref, son histoire changeait toujours. Mais ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est comment ça déchire la famille Kennedy parce qu'il y a 9 enfants qui sont toujours vivants. Il y en a 2 qui ont rencontré l'accusé en prison et qu'ils ont dit « Notre père aurait aimé qu'il soit libéré parce que, justement, il a droit à une deuxième chance d'être auprès de sa famille. »
Oui, ça divise même la famille. 54 ans. Ça fait 50, ça va faire 54 ans. En juin. Vous vous rendez compte?
Et dans un contexte où Martin Luther King venait d'être assassiné, des années auparavant, son frère John F. Kennedy, écoute, c'était un contexte aussi qui a marqué l'histoire. Et il le dit, Gavin Newsom, dans son texte, il dit « Cet événement-là, cet assassinat a changé le cours de l'histoire. » Parce que tu l'as dit en introduction, on aurait peut-être eu Robert Kennedy comme président. Il venait de gagner la primaire démocrate de la Californie. C'était le soir de sa victoire.
Exact, à l'hôtel Ambassador.
Exactement, il venait d'avoir sa victoire, il s'en allait, il avait passé par les cuisines pour se rendre, aller parler aux médias. Donc, s'il avait choisi peut-être un chemin différent, aujourd'hui, l'histoire serait peut-être pas la même.
Bon, il y a des gens qui ont participé à l'attaque sur le Capitole le 6 janvier de l'an dernier, qui ont été arrêtés pour sédition. Et on dit que c'est une accusation très grave. Qu'est-ce que c'est d'être arrêté pour sédition?
Grave et rare. Donc, on dit que c'est l'accusation la plus grave jusqu'à maintenant parce qu'on est passible de 20 ans de prison lorsqu'on est reconnu coupable de sédition. Donc, ça implique l'idée d'avoir comploté contre le gouvernement ou contre des lois d'un pays. Donc, c'est vraiment une notion assez politique. Donc, de dire qu'il y avait ce complot pour, dans ce cas-ci, empêcher la certification du résultat électoral. Et ça touche qui, Paul? Ça touche les Oath Keepers. Bon, t'en as entendu parler, les auditeurs, peut-être moi, je le sais pas. Les Oath Keepers, c'est un groupe de l'extrême droite. On parle aussi des Proud Boys. Souvent, les Oath Keepers, on en a moins parlé, mais ils sont ceux qui ont aidé à organiser le fameux rallye qui a viré en émeute, en attaque du Capitole. Et lui, la tête dirigeante, là, on le voit souvent, là, il y a comme un œil de pirate, hein. Il y a un bandeau noir sur un œil. Lui, finalement, s'est jamais nécessairement rendu dans le Capitole, mais a coordonné. Et il a dit la chose suivante, et c'est ce qui a été révélé jusqu'à maintenant, on s'en sortira pas sans une guerre civile.
Exact, il a dit ça. Il souhaite pas, mais enfin, il a dit, ça se pourrait bien que ça dégénère en guerre civile.
Et il souhaite pas, mais il avait, écoute, mis des armes qu'il transportait pour la capitale américaine. Il avait organisé le transport de ses membres et Oath Keepers, Oath, ça veut dire serment, et leur serment, c'est de vraiment défendre la Constitution des ennemis extérieurs et intérieurs. Et ça a été créé quand, ça, Paul? Quand Barack Obama a été au pouvoir. Ah. C'est pour te dire le contexte de cette création de cette organisation-là d'extrême droite.
Parmi les gens qui ont eu une dure semaine, Valérie, le prince Andrew.
Oui.
Il a été déchu de ses titres militaires. Et là, on sait une chose, c'est qu'il a été incapable de faire annuler un éventuel procès aux États-Unis.
Oui, un procès au civil pour des allégations liées à une agression sexuelle d'une jeune femme de 17 ans. Ça s'est passé dans le contexte de, justement, M. Epstein là, qui s'est enlevé la vie et tout ça là, qu'il aurait fourni, entre guillemets, cette femme-là. Et là, imagine la honte pour la monarchie britannique parce que là, il a essayé plusieurs recours. Il a essayé de faire annuler le procès parce qu'on s'était déjà entendu en 2009 pour régler ça avec Jeffrey Epstein. Ça n'a pas fonctionné. Alors là, le procès pourra avoir lieu dès l'automne. Est-ce qu'on va régler hors cours? Mais le problème, Paul, c'est que normalement, dans un procès civil, vu que c'est de l'argent, on règle hors cours. Mais est-ce que ça va avoir l'air qu'on est coupable de donner de l'argent? Mmh. Mais en même temps, est-ce qu'on veut risquer au procès de la preuve qui va être présentée? C'est ça. Peut-être qu'il va avoir finalement les conséquences s'il est véritablement coupable de ses actes.
Alors, je sais une chose, Valérie Beaudoin ne regardera pas le football ce soir.
Non.
elle va écouter le discours de Donald Trump et son rassemblement en Arizona.
Oui, il l'a promis, il l'a dit, il avait annulé sa conférence de presse du 6 janvier dernier en disant « Je vais vous parler de la véritable insurrection, ça va se faire le 15 janvier en Arizona. » Donc, un premier rallye 2022 pour l'ancien président Trump. Je vais voir aussi s'il va lancer des flèches à son ancien vice-président qui a écrit dans le Washington Post aujourd'hui en mettant une petite ligne sur justement le 6 janvier. Je vais voir, mais je pense qu'il va attaquer à boulet rouge là, certains de ses adversaires politiques. On va voir ça ce soir.
Merci Valérie, bonne semaine.
Bonne semaine.
Les sports.
Alors, évidemment, Jérémy verra rien de ça, ni Donald Trump, ni le football. Il va regarder les reprises de Big Brothers. Y a-t-il des affaires que tu comprends pas dans Big Brother?
Plein de choses.
Parce que Richard va t'expliquer.
Le concept général.
Richard va tout expliquer.
J'ai beaucoup de difficultés avec le concept en général. En partant, c'est ça. Mais non, j'aurai les yeux ce soir sur le match éliminatoire entre les Patriots et les Bills. Parce que ça débute aujourd'hui. Vous avez à 16h30 les Raiders qui font face aux Bengals.
As-tu pensé à la météo de ces deux matchs-là?
Quand même, hein.
Cincinnati est au cœur de la grosse tempête du Midwest. Ils vont recevoir des tonnes de neige. Et Buffalo, pas mieux.
Mais on pourrait peut-être donner avantage aux Bengals là-dessus parce que les Raiders sont habitués de jouer dans